Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique. Pour financer les besoins ponctuels de trésorerie ou l'acquisition de biens d'équipement, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver. Au programme ce matin, un débat sur l'avenir du G5 Sahel. Après avoir rompu les liens avec la force française Barkhane et la force européenne Takuba, voilà que le Mali a décidé de se retirer du G5 Sahel, créé il y a maintenant 8 ans pour lutter contre les groupes djihadistes. Évidemment, cette décision soulève de nombreuses interrogations. D'abord sur l'avenir pour la coopération régionale en matière de lutte contre le terrorisme. Quelles conséquences pour le Mali, mais aussi pour les autres pays de cette organisation, à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. En tout cas, pour le président nigérien Mohamed Bazoum, le retrait du Mali acte la mort du G5 Sahel. On en parle évidemment ce matin, vos réactions, vos commentaires au standard, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Je vous attends notamment sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, vous le savez, durant les 20 prochaines minutes, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous avez écouté le journal, vous souhaitez un complément d'information, et bien on se fait un plaisir tous les matins de vous répondre. Et on commence la semaine avec Kalilou au Bénin. Bonjour Kalilou.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Oui, lors du passage du combat de Barkhane à Niamey, 3 jeunes Nigériens ont été tués. Alors, pourquoi l'enquête lancée après la mort des 3 jeunes Nigériens lors du passage de ce convoi à Téhéra n'a pas permis d'établir de responsabilité?
Ouais, je rappelle que les faits remontent au mois de novembre, lorsqu'un convoi de la force Barkhane, parti d'Abidjan, Côte d'Ivoire, pour rejoindre Gao, le Mali, avait été bloqué par des manifestants en colère à Téhéra, dans l'ouest du Niger. On en avait longuement parlé sur RFI, vous en avez même débattu ici même. 3 manifestants ont alors été tués. Bonjour Moussa Kaka.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de RFI à Niamey. Expliquez-nous, Moussa, pourquoi l'enquête menée par le Niger, mais aussi par la France, n'a pas permis de déterminer les circonstances de la mort de ces 3 jeunes manifestants.
Alors, tout de suite, il faut dire qu'après les événements du 27 novembre 2021 à Téhéra, c'est à Niamey, le gouvernement nigérien a annoncé le même jour, dans un communiqué rendu public, qu'une enquête sera ouverte afin de soutenir les responsabilités. L'objectif était de sanctionner les auteurs de ce drame et éventuellement procéder aux réparations qui s'imposent en pareille circonstance. L'enquête a également été chargée de faire la lumière sur la manifestation elle-même, qui selon le gouvernement nigérien n'était pas spontanée. Alors, 3 acteurs étaient sur le terrain, disons, les soldats de Barkhane qui venaient de Burkina Faso, les gendarmes nigériens qui les escortaient et les manifestants de terrain. Des graves défaillances du dispositif de maintien de l'ordre ont été relevées. Pour s'extraire, l'armée française a dû recourir à des tirs réels. Nulle part, il n'a été dit que les gendarmes nigériens ont utilisé leurs armes de guerre. Alors, selon les enquêteurs, les gendarmes et les militaires français, l'exploitation des résultats donc, de ce travail n'a pas permis de situer les responsabilités. Quand bien même, l'armée française a reconnu avoir utilisé ses armes. Retenez que l'enquête s'est déroulée entre militaires de 2 pays, sans aucun juge civil, ce qui a été vivement dénoncé par les auteurs, par les acteurs donc, de la société civile, et certaines parties de l'opposition.
Oui, l'armée française, qui reconnaît donc avoir utilisé des armes, à des fins de sommation, pour situer le contexte. Moussa Kaka, reste avec nous, puisque Kalilou a d'autres questions, évidemment, à vous poser sur cette affaire qui a défrayé la chronique à l'époque, au mois de novembre. Kalilou ?
Oui, vous avez dit que les responsabilités n'ont pas été situées. Alors, pourquoi la France et le Niger ont décidé quand même d'indemniser les victimes ?
Indemnisation des victimes, voilà ce qui a été décidé effectivement par Paris et Niamey. Moussa Kaka ?
Oui, selon plusieurs sources que j'ai contactées, c'est pour mettre fin au mécontentement des Nigériens que cette formule de dédommagement a été trouvée. À vrai dire, ce sont les religieux musulmans de Téhéran, les imams, les ulémas, qui ont sauvé la face donc aux 2 armées. La France et le Niger se sont engouffrés dans dans la chose religieuse, dit-on, pour souffler un peu. Alors, en payant le prix du sang versé, recommandé par l'islam, les enquêteurs ont trouvé l'astuce. Des billets de banque aux familles des victimes qui les ont acceptés et le tour est joué. Un véritable raccourci donc pour résoudre cette situation confuse et grave. mais qui est toléré ici au Niger, car aucun membre de la famille des victimes n'a broché après cet arrangement à l'amiable, parce que 50 millions de francs CFA, dit-on, ont été versés par personne tuée.
50 millions de francs CFA par victime, donc pour les familles de ces trois jeunes manifestants décédés fin novembre lors du passage de Barkhane. A-t-on répondu à vos questions, Khalilou ?
Je profite pour poser mes condoléances aux familles des victimes.
Merci de nous avoir appelés de Cotonou, Moussa Kaka. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous de Niamey, où le réseau téléphone n'était pas très bon, mais on a compris bien évidemment l'essentiel de vos explications. Le Standard, Falikou est avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI Radio du Monde.
Merci de nous appeler de Séoul. Vous êtes en Corée du Sud, donc vous êtes guinéen. Vous écoutez RFI sur Internet. Et vous avez des questions concernant l'épidémie de Covid-19 en Corée du Nord.
Exactement. Bon, au fait, nous avons appris par la RFI qu'en Corée du Nord, une soixantaine de personnes sont décédées de la Covid-19.
Oui. Falikou ? Ah ! Ah bah voilà, ce sont les aléas du direct. On a perdu Falikou à Séoul, en Corée du Nord. On va essayer de le retrouver évidemment dans les prochaines secondes. Falikou qui voulait comprendre.
Oui, allô ?
Oui, voilà.
Oui. Donc je suis là.
Vous êtes là, on vous entend.
Je suis là.
Allez-y, donc quelle est votre question ?
Bon, la première question que je voudrais savoir, comment expliquer que la pandémie de la Covid n'apparaît que maintenant en Corée du Nord, plus de 2 ans après être propagé dans le monde.
Allez, je précise que selon les derniers chiffres officiels, 67 personnes seraient mortes du coronavirus ces derniers jours. Bonjour Juliette Morillo.
Bonjour Juan.
Journaliste, historienne, spécialiste de la péninsule coréenne. On vous doit de nombreux ouvrages. Je vais me contenter de citer le dernier, publié il y a quelques mois, La Corée du Sud en 100 questions. C'est vrai Juliette Morillo que ça fait plus de 2 ans. Et pendant ces 2 dernières années, la Corée du Nord se targuait d'avoir réussi à empêcher le Covid-19 d'entrer sur son territoire. Et voilà que depuis 15 jours, le pays connaît une flambée épidémique des cas. Pourquoi ?
Alors évidemment, ça peut paraître un peu surprenant, mais ce n'est pas totalement absurde de dire que la Corée du Nord aura majoritairement depuis 2 ans échappé à la pandémie, parce qu'en fait, ça a été le premier pays, tout début janvier 2020, à s'isoler complètement du reste du monde. De par la nature du régime, le pays est déjà isolé, on ne se déplace pas beaucoup. Au sud, vous avez la DMZ, qui est complètement étanche vers la Corée du Sud. Au nord, vous avez 2 fleuves qui forment la frontière avec la Chine. Et là, la Corée du Nord, d'ailleurs, s'est tirée une balle dans le pied économiquement, a totalement fermé ses frontières. Donc, le pays était en quelque sorte en confinement, en quarantaine généralisée. Donc, il est évident qu'il y a certainement eu des cas, mais ça ne s'est pas beaucoup répandu, d'autant que les Coréens du Nord ont appliqué des mesures barrières très fortes. En revanche, là, petit à petit, le commerce avait repris. On l'annonce maintenant parce que ça a touché la capitale, mais je pense que le virus est arrivé début mars. À ce moment-là, vous avez eu une flambée dans les provinces de Mandchourie, le Jilin, le Liaoning et dans la ville de Dandong, qui est une ville frontalière avec la Corée du Nord, au nord-ouest de la Corée du Nord, à Shinwiju. Et là, vous avez eu des cas. Et comme vous avez quand même du petit commerce frontalier qui passe par là, ça s'est diffusé. Vous avez également eu une énorme parade. Et là, ce qui est très curieux, c'est que hier, la Corée du Nord a annoncé avoir réussi à vaincre le virus.
C'est ce que dit un éditorial de l'organe de presse officiel du parti au pouvoir. Nous avons supprimé, contrôlé pour de bon la propagation du virus en un éclair de temps. Voilà ce que dit la propagande, Juliette Morillo. Faut-il croire ces propos ?
C'est la force supranaturelle de Kim Jong-un. On l'a même vu apparaître hier à des funérailles nationales pour un militaire. Il apparaissait sans masque. Et à nouveau, il y a eu d'énormes regroupements qui peuvent, là encore, diffuser le virus. J'ai du mal à y croire, d'autant que c'est dramatique, parce que la Corée du Nord, de par cet isolement forcé depuis 2020, isolement de facto, n'a pas été du tout en contact avec le virus. Elle n'est pas vaccinée et le variant Omicron, et c'est pour ça que les Nord-Coréens l'ont annoncé, est terriblement contagieux et sur une population qui est faible, affaiblie, pas très bien nourrie, ça peut véritablement être catastrophique.
Juliette Morillo, Falikou à Séoul, a une dernière question à vous poser.
Oui. La deuxième question que je voudrais savoir, est-ce que la Corée du Nord, étant un pays fermé avec un système sanitaire peu performant, peut-elle accepter de l'aide extérieure?
Alors, pour l'instant, Juliette Morio, on a comme l'impression que le régime n'est pas prêt à accepter la moindre aide humanitaire.
Non, la Corée du Nord est fière de son indépendance. Sur le terrain, néanmoins, pour la première fois la semaine dernière, vous avez eu des avions qui ont décollé de Pyongyang. Le pays était, je vous le rappelle, totalement fermé et qui ont été chercher du matériel humanitaire en Chine. Donc je pense que de la part de la Chine, ils vont recevoir des combinaisons, peut-être des tests, parce qu'on ne teste pas en Corée du Nord. On parle de yol, on parle d'une grosse fièvre. Mais ils n'accepteront pas momentanément la main tendue, en tout cas des Sud-Coréens, de Biden qui était à Séoul. Oui. Peut-être pourrait-il accepter une aide éventuelle de la Croix-Rouge ou de l'Union européenne, mais c'est difficile et leur système sanitaire n'est pas en très bon état. Ils ont beaucoup, beaucoup de médecins d'un très, très haut niveau puisqu'ils ont été formés souvent à Moscou ou à Pékin, mais en revanche, les hôpitaux, hormis à Pyongyang, sont calamiteux et surtout, c'est un pays pauvre, ils n'ont plus de médicaments, ils sont sous le coup de sanctions, donc économiquement, les hôpitaux en pâtissent énormément.
L'expertise de l'historienne et spécialiste de la péninsule coréenne, Juliette Morio, merci d'avoir été avec nous. Falikou, bon après-midi à Séoul et continue à écouter RFI. Falikou, ah bah la ligne vient juste de couper, ah bah c'est pas de chance pour moi, qu'il nous rappelle quand il le souhaite évidemment. Bonjour Cédric d'Oliveira.
Bonjour Juan.
Journaliste au service des sports de RFI. On va parler football ce matin. Allez. Avec notamment une question sur le désormais ancien international Pierre-Emerick Aubameyang. Bonjour Kossi.
Bonjour.
À Libreville, au Gabon, on vous écoute.
Très bien, merci beaucoup. Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant gabonais du FC Barcelone, a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Pourquoi prend-il sa retraite maintenant alors qu'il n'a que 32 ans?
Oui, c'est une bonne question que vous posez, Cédric d'Oliveira. C'est vrai que c'est une page de l'histoire du football gabonais qui se tourne. Sait-on pour quelle raison Aubameyang a décidé de ne plus porter le maillot des Panthères du Gabon?
Alors en tout cas, lui, il ne s'est pas exprimé avec précision là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'Aubameyang a envoyé un courrier à sa fédération précisant qu'il ne voulait plus jouer avec les Panthères, effectivement à 32 ans. Alors forcément, on pense à la dernière CAN qui ne s'est pas bien passée au Cameroun, à ce test positif au Covid qui l'a empêché de jouer et ensuite à cette sortie nocturne, on va dire, qui a provoqué ensuite son exclusion du groupe. La dernière expérience ne s'est donc pas bien passée. Il se disait en stand-by il y a quelques semaines. Il a donc décidé d'en arrêter là. On a tenté d'avoir des explications, de le solliciter. Il n'a pas voulu répondre. On a pu échanger en revanche avec Patrice Neveu, le sélectionneur du Gabon, qui lui non plus n'a pas voulu se prononcer sur les raisons de ce départ. Les deux hommes se sont vus pourtant à Barcelone. C'est là qu'Aubameyang lui a annoncé sa décision. Neveu qui nous a confié qu'il l'a acceptait ce départ, mais qui a parlé de coup dur. Il a eu des mots très positifs quand même sur son joueur. Il a loué ses qualités de leader et l'a remercié et félicité pour l'ensemble de son œuvre sous le maillot des Panthères.
Et justement, son œuvre, quel bilan peut-on dresser du parcours d'Aubameyang en sélection gabonaise?
Mais sans doute le meilleur joueur de l'histoire du foot gabonais, en tout cas meilleur buteur. C'est une certitude, 30 buts en 72 sélections. C'est presque un but tous les deux matchs. Aubameyang a connu des bons moments. La CAN 2012, où il fait partie des meilleurs buteur du tournoi, une année 2015 faste également. Le ballon d'or africain cette année-là, il le cite d'ailleurs ce moment comme un de ceux qui l'ont plus marqué dans sa carrière internationale dans son communiqué. Mais il y a eu aussi les plus mauvais moments. Cette élimination en phase de groupe de la CAN en 2017 à la maison, ce rendez-vous manqué donc devant son public et puis cette sortie manquée là au Cameroun. Globalement, il y a une frustration avec Aubameyang, c'est qu'il a le talent des plus grands joueurs, ça c'est une certitude.
Et on le voit encore en ce moment au Barça. Hein.
Mais justement, il faut vraiment dissocier sa carrière en club, Arsenal, à Dortmund, au Barça, et celle donc en sélection, c'est indéniable. Il est très talentueux, mais il y a un constat, c'est qu'il n'a jamais réussi à amener son pays sur le sommet de l'Afrique.
Voilà, au Barça, 13 buts inscrits en à peine 3 mois. Vous avez une autre question, Kossi?
Tout à fait. Et quelles conséquences sportives cela peut-il avoir pour la sélection gabonaise?
Vous en parliez à l'instant, Cédric d'Oliveira. Patrice Neveu, le sélectionneur du Gabon, lui reconnaît que c'est un coup dur, ce départ. Plus largement, plus concrètement, ça signifie quoi?
On peut supposer qu'Aubameyang avait encore énormément à apporter à 32 ans, mais Neveu nous a aussi confié que c'était l'heure de tourner la page, et peut-être même qu'elle est déjà tournée, puisqu'on parlait de la CAN au Cameroun. Eh bien, Aubameyang n'a pas joué une minute là-bas. Ça n'a pas empêché le Gabon de se qualifier brillamment pour les huitièmes de finale, avant d'être sorti par le Burkina Faso in extremis au tir au but. On a senti là-bas une équipe soudée, cohérente, avec un état d'esprit, sans tête qui dépasse. Et puis on a vu d'autres joueurs qui ont pris leurs responsabilités en attaque. On pense à Jim Alevina, à Ron Boupenza. Ils ont marqué tous les deux. Il y a une nouvelle génération, un nouveau cycle à charge à Patrice Neveu de mettre en place tout ça. On rappelle que le Gabon va jouer deux matchs pour les éliminatoires de la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Ce sera début juin sans Pierre-Emerick Aubameyang, donc ce sera face à la RDC, puis face à la Mauritanie.
A-t-on répondu à vos questions, Kossi?
Tout à fait, merci beaucoup, merci à tous les auditeurs.
Et bonne journée à Libreville, et un grand merci donc à Cédric d'Oliveira du service des sports.
Merci à vous.
Allez, bonne journée. Il nous reste 4 minutes, on a le temps de prendre Marcus, en République démocratique du Congo, à Goma exactement. Bonjour Marcus.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Soyez le bienvenu, vous avez des questions sur la situation sécuritaire dans l'est de votre pays, la RDC.
Oui, oui, l'armée ougandaise pourrait se retirer de l'opération conjointe menée avec les forces armées congolaises contre les ADF, le groupe armé le plus meurtrier de l'est de la RDC. Alors, question, pourquoi l'armée ougandaise souhaite-t-elle se retirer alors que les ADF n'ont pas été mis hors d'état de nuire?
Question. C'est vrai qu'on se demande si les soldats ougandais vont bientôt quitter l'est de la RDC. Regan Mirivi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste au baromètre sécuritaire du Kivu. Rappelons à tous nos auditeurs que depuis la fin du mois de novembre, les militaires ougandais et congolais combattent ensemble les rebelles ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il y a eu la semaine dernière un tweet posté par le fils du président ougandais, qui est par ailleurs à la tête de l'armée de terre, et il affirme que l'opération prendra officiellement fin dans 2 semaines. Comment faut-il interpréter ces propos?
Merci. Ouais. Mais tout d'abord, il faut déjà nuancer, en fait.
Regan Mirivi, qu'on a perdu, il me semble. Et voilà, c'est la deuxième fois que ça arrive. Ah. Alors attendez, Regan Mirivi, excusez-moi, il y a une coupure de plusieurs secondes et donc on n'a pas entendu le début de vos explications. Regan Mirivi, décidément, on va essayer de rétablir.
Je vous écoute mieux.
Ah voilà, moi je vous entends également. On est en direct, hein, voilà, ça se passe comme ça. Donc vous disiez, Regan Mirivi.
Oui, je disais en fait que selon les sources proches du dossier, rien n'est encore décidé. La sortie médiatique du général Mohozi serait une pression sous les gouvernements congolais, alors que parallèlement est envisagée la mise en place d'une force régionale dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et donc, selon les informations qu'on a, nous pensons que les Ougandais vont rester, et pour deux raisons. Premièrement, c'est parce qu'ils n'ont pas encore atteint l'objectif ultime qui est de neutraliser les forces négatives dans leur zone d'intervention. Mais aussi, deuxièmement, la construction de routes commerciales entre l'Ouganda et la RDC n'a pas encore commencé, alors que c'est une composante essentielle de l'accord entre les deux pays. Donc l'Ouganda y tient, et les UPDF, les Ougandais vont rester pour sécuriser les investissements ougandais qui coûteront des millions aux contribuables ougandais.
À vous entendre, Regan Mirivi, le départ des troupes ougandaises n'est pas pour demain, alors, n'est pas pour la fin du mois, le 31 mai, comme le disent certains.
En tout cas, nous pensons que ça va continuer.
Merci infiniment. C'était court. Malheureusement, on a perdu un peu de temps avec les problèmes de réseau téléphone. Regan Miviri, bonne journée donc dans le Kivu. Et puis, signalons quand même ces propos du porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, qui disait il y a quelques jours qu'il était prématuré de parler de la fin de cette opération conjointe donc entre militaires congolais et ougandais. On va marquer une pause. On va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient tout de suite minutes après pour vous donner la parole pour débattre ensemble de l'avenir du G5 Sahel après la décision du Mali de se retirer de cette organisation. À tout de suite.